Comment travailler sur la géopolitique et le journalisme en classe ? C'est le projet que nous avons proposé avec les lycées du Bois d'Amour et le lycée de Camille Guérin, aux deux groupes d'HGGSP en première OLP2I, avec mes deux collègues, Henri Gauthier.
Bonsoir.
Et Jordi Colomère.
Bonsoir.
Professeur d'histoire-géographie. Je suis Julie Morin, professeure documentaliste, et nous vous parlons du prix Géopolybule sur Delta FM. J'ai deux questions, une pour chacun. Alors, on commence par Henri Gauthier. Le 22 janvier dernier, les classes des trois lycées étaient réunies pour voter pour leur BD préférée. Comment s'est passée la rencontre ? Quel a été le temps fort pour toi ? Et quel BD a remporté les suffrages ?
Alors, ça s'est très bien passé. Très rapidement, en fait, il y avait plusieurs temps. Le premier temps, ils étaient réunis en une dizaine de groupes avec 10 élèves dans chacun, puis mélangés, hein, venant de différents établissements. Et ils devaient discuter, s'entendre pour faire un classement de leur BD. À la suite de ce temps-là, il y a eu un vote. Et ensuite, il y avait un temps de créativité où, par BD sélectionnée par les élèves, en fait, ceux-ci devaient faire une création visuelle ou une photo ou une vidéo pour faire la promotion de cette BD. Et puis, ça s'est terminé par un temps de rencontre avec donc Antoine Dreyfus, donc le co-scénariste de la BD, donc Pyongyang Parano. Alors moi, je dirais que le temps fort, ça a été cette rencontre. Hein. Clairement, de la part des élèves, ça a été manifesté à la fin. Puis même nous, on l'a senti. Antoine Dreyfus a été a transmis pas mal de choses, en fait, sur qui il était, puis sur comment il a vécu ce séjour à Pyongyang, qui est la base, quand même, de sa BD. Donc vraiment, ça, c'était le temps fort. Et puis, merci de m'avoir rappelé que, effectivement, la BD préférée par les élèves, c'est le journal Inquiet d'Istanbul. Et d'ailleurs, c'était un bon moment, parce que je crois que dans le même temps, nationalement, le tome 2 de la BD paraissait. Donc ils sont vraiment à la page, nos élèves, c'est des élèves formidables. N'est-ce pas, Jordi ?
Absolument, oui.
Jordi, donc on a parlé de la rencontre du 22. C'est dans le cadre du prix Géopolybule organisé par l'Académie de Brest, qui sélectionne 10 bandes dessinées. Comment nos classes de première ont préparé leurs émissions radio, celles que nous allons écouter ?
Donc les élèves avaient, par petits groupes, des bandes dessinées à lire. Donc déjà, la première phase, c'était de lire attentivement les bandes dessinées, de les comprendre. Donc on les a un petit peu aidés à contextualiser aussi les bandes dessinées, parce que c'est pas forcément un document très simple à appréhender pour des élèves. Mmh. Ensuite, on leur a proposé de faire une fiche de lecture avec différents éléments à relever, travailler sur l'auteur aussi, donc sa légitimité à parler du sujet. Etc. Des choses aussi sur tout ce qui était graphisme, dans le côté plus esthétique, donc le fond et la forme de la bande dessinée. Et ensuite, en classe, donc avec toi, Julie, on leur a proposé d'écouter une émission de France Culture pour voir comment elle était organisée, quels étaient les critères radiophoniques pour qu'une émission soit sympa et qu'elle fonctionne. Donc on leur a fait repérer un certain nombre de choses sur le ton, sur le rythme, sur le rôle aussi que chacun a dans une émission. Donc certains se sont beaucoup inspirés du book club de France Culture, d'autres ont été aussi très créatifs. Donc ça, on a eu des belles choses. C'est un exercice qui était difficile pour bien des élèves, donc exigeant. Donc ça, c'était aussi bien de leur proposer quelque chose qui leur demande un vrai effort et un travail en groupe. Et ensuite, une fois qu'ils avaient structuré tout cela, eh bien, il a fallu qu'ils prennent rendez-vous ici à la radio avec Justine pour procéder à l'enregistrement. Et ensuite, on a partagé tous ces enregistrements avec les membres du groupe et avec les autres lycées, puisqu'on avait un endroit où partager tous les podcasts des trois lycées.
Parfait. Voilà. Et comme ça, chaque élève a pu prendre connaissance de chaque bande dessinée et ainsi se faire son propre avis. Voilà un peu tout ce que, enfin, la conclusion de ce projet que nous avons mené depuis septembre avec le lycée du Bois d'Amour et Camille Guérin, que nous saluons. Et nous vous laissons maintenant en compagnie de chefs d'État états-uniens passés et présents, de reporters de guerre, de journalistes sous une dictature, en Corée, à Istanbul, avec des personnages engagés dans l'humanitaire. Toutes les BD sont au CRD, j'en profite pour le dire. Et on vous souhaite une bonne découverte, plongée dans la géopolitique du passé et du présent. Merci beaucoup.
Merci Julie.
Merci à toi.
Mesdames, messieurs, en cette belle matinée, vous êtes sur Delta FM dans notre émission L'Instant Book. Aujourd'hui, nous accueillons Elisabeth et Valentin dans le cadre du concours Géopolybule. Alors bonjour à vous deux, vous êtes lecteurs de la bande dessinée à 3ème caméra, parue en 2024, écrite par Cédric Apikian et illustrée par Denis Rollier. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la 3ème caméra ?
Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, les photographes nazis utilisaient un appareil photo clandestin appelé la 3ème caméra pour prendre des clichés interdits par la propagande officielle allemande. Cependant, ces photos montraient ce que les régimes nazis voulaient cacher, c'est-à-dire la réalité des camps de concentration, le sort des juifs, etc. Et l'intrigue de la BD se repose donc sur la recherche des photos par les forces alliées, car elles pourraient servir de preuve des crimes nazis lors du procès de Nuremberg, par exemple.
Ok, et selon vous, quel message transmet cette BD ?
La 3ème caméra montre que les images peuvent à la fois dissimuler la vérité ou la révéler. Elle nous rappelle que témoigner, même discrètement, est essentiel pour que l'histoire ne soit pas oubliée et pour que la vérité triomphe. C'est une BD qui parle de mémoire, de justice et surtout du courage de montrer ce que certains veulent à tout prix cacher.
Ok, et selon vous, quels sont les grands piliers de ce livre ?
Selon moi, la BD repose sur plusieurs piliers. Je dirais que c'est la vérité, la mémoire, le témoignage, le courage ou la responsabilité ou encore surtout l'histoire. Après, il y a aussi des aspects plus sombres comme le pouvoir des images, la manipulation de l'information et la lutte entre propagande et vérité. Le tout dans un Berlin en ruine particulièrement marquant.
Imaginez que vous deviez convaincre une personne de lire la BD. Quel argument vous donnerez ?
Je dirais que c'est une BD qu'il faut lire deux fois. Une première lecture pour comprendre l'intrigue, puis une seconde pour saisir toute la profondeur du récit. Elle est très bien écrite malgré le peu de paroles, ce qui est largement remplacé par des images fortes et marquantes. C'est un mélange d'histoire, de suspense et d'enquête. On peut aussi souligner l'originalité d'un récit de guerre vu sous un angle peu commun, celui des images interdites. Cette BD mêle fiction et réalité, ce qui rend la lecture encore plus immersive.
Alors, à quel public correspond cette BD ?
Je pense qu'elle s'adresse aussi bien aux adolescents qu'aux adultes, aux passionnés d'histoire, comme à ceux qui souhaitent découvrir le fonctionnement de la propagande pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et d'après vous, quelles sont les intentions de l'auteur ?
Selon moi, l'auteur veut montrer que les images ont un véritable pouvoir. Elles peuvent mentir, mais elles peuvent aussi prouver la vérité. Il rappelle que l'histoire existe grâce à ceux qui acceptent de témoigner, même lorsque cela est dangereux. Avec cette BD, Apikian et Rodier nous invitent à réfléchir à la propagande, à la manipulation de l'information et à l'importance de montrer la réalité pour que les faits ne soient jamais oubliés.
Ok, on va faire un petit jeu. Décrivez-moi la BD en 5 mots.
Je dirais curieuse, unique, marquante, historique et surtout très belle.
Ok, pas mal. Et quel passage vous a le plus marqué ?
Ah, pour moi, c'est l'une des dernières pages de l'œuvre. Un personnage y prononce une dernière réplique extrêmement marquante qui remet en question toute notre lecture, voire même la vision que l'on peut avoir des nazis.
Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Et juste pour finir, pourquoi cette BD est-elle importante aujourd'hui ?
Parce qu'elle nous rappelle que l'histoire peut se répéter si elle est oubliée. La 3ème caméra montre que la vérité prend parfois beaucoup de temps à émerger, mais qu'elle finit toujours par trouver un chemin grâce à ceux qui osent témoigner.
Ok, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation passionnante. C'était l'Instant Book sur Delta FM. À très bientôt pour une nouvelle émission.
Istanbul, une ville marquée par les tensions et l'autocratie puissante depuis la fin de l'Empire ottoman. Nous sommes en 2007 quand tout commence, avec l'arrivée au pouvoir d'Erdogan. Cette période est marquée par des révoltes de la population contre le gouvernement mettant en péril la capacité de la Turquie de rester un État.
C'est ce que raconte Ersin Karabulut, auteur de la BD « Le journal inquiet d'Istanbul ». Ancien étudiant de l'Université des Beaux-Arts des Mimar Sinan, il a travaillé pour un hebdomadaire turc et c'est l'univers dont il va s'inspirer et vivre tout au long de la BD. Dans cette biographie documentarisée, son intention est d'abord de montrer son histoire et celle de son pays afin de faire prendre conscience de toutes les atrocités d'une autocratie méconnue. Merci Lorelai pour cette mise en contexte. Aujourd'hui, dans la Minute Lecture, découvrez cette bouleversante histoire accompagnée de Lorelai, qui nous a introduit cette superbe BD, ainsi que Roman, lecteur lycéen qui vont nous présenter la BD, le journal Inquiet d'Istanbul, qui est une histoire touchante sur le bouleversement de 2007 à 2008 auquel a dû faire face la population turque. Vous êtes ici pour l'association Géopolibule, qui a pour but de promouvoir la lecture auprès des élèves et de les sensibiliser aux enjeux du monde contemporain dans un cadre scolaire. Bonjour à tous et bienvenue à Delta FM. Tout d'abord, pouvez-vous commencer par nous faire un petit résumé du début de la BD ?
Oui, alors c'est l'histoire d'Ersin qui mène une vie tranquille dans le quartier de Beyoğlu, où il vit en colocation avec d'autres artistes. Ensemble, ils publient leur premier article en magazine. Ce magazine devient en seulement quelques semaines l'hebdomadaire le plus vendu en Turquie, mais qui reçoit des avis très partagés, car en effet, il critique le gouvernement turc. C'est dans ce contexte qu'Erdogan, haut placé politique, annonce la destruction du parc Gezil. Indigné, le personnage principal rejoint les manifestations qui s'y opposent.
Merci Roman. Lorelai, quel est le sujet principal de la BD et comment l'auteur met-il en forme sa BD ?
Alors ici, le sujet principal, c'est la vie d'Ersin, l'auteur de la BD, durant la crise politique d'Istanbul. Il raconte sous forme de documentaire, car Ersin se base sur une histoire vraie, la sienne et celle de son pays, en racontant son point de vue. On peut donc dire que cette BD est un peu comme un récit autobiographique et documentaire, car elle raconte l'histoire de la Turquie et d'Istanbul, sans ajouter de faux éléments et où des vraies scènes sont vécues par l'auteur et la population turque.
Merci à vous. Pouvez-vous maintenant nous décrire la BD en 5 mots ?
Je pense que les mots qui correspondent le plus sont bouleversant, enrichissant,
réaliste, la censure de médias
et la dictature aussi.
Y a-t-il une planche qui vous a marqué et si oui, laquelle ?
Oui, pour moi, c'est la page 143. C'est un moment clé dans l'histoire car elle montre le moment où le pays tente de se révolter mais échoue face à la puissance d'Erdogan.
C'est un moment très important dû au fait que l'importance de ce qu'il se passe en Turquie. Et ça permet d'expliquer et de comprendre les événements qui vont s'en suivre. Dans cette page, une journaliste annonce la prise du pouvoir par l'armée pour rétablir l'ordre face au droit que la Turquie ne puisse plus en capacité d'être un État.
Voulez-vous dire quelque chose pour conclure ?
Je dirais qu'il faut vraiment prendre le temps de lire cette BD, car elle en vaut la peine et permet de comprendre l'histoire d'un pays qui reste assez inconnu, notamment pour les jeunes.
Merci beaucoup Roman et Lorelai d'être venus partager votre lecture et votre savoir sur cette BD. C'était Charlotte dans la Minute Lecture. Bonne fin de journée sur Delta FM et à bientôt pour une nouvelle émission.
Française, Français, l'évasion sera rude. Voilà ce qu'aurait dit le boy quelques jours avant de s'enfuir d'un camp de prisonniers allemands. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode des Évasions de pensée. C'est l'histoire d'un homme, Jack le Boy, qui raconte à son fils comment il fut déporté durant la guerre dans un camp de prisonniers allemands. Elle est très touchante, malgré son style de dessin simple, donc le Boy et Pierre, un ami à lui, vont tenter à plusieurs reprises de s'échapper sans succès. On suit alors leur situation, les différents plans qui prennent parfois des mois à se mettre en place, et l'ambiance dans les camps de prisonniers. Nous recevons deux élèves fascinés de l'histoire qui vont vous parler de la BD, Les Évasions Perdues et du prix Géopolibule. Vous êtes sur Delta FM, donc sans plus attendre, voici nos invités, Nolan et Sacha, deux élèves du LP2I.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bien, passons aux questions. De quel sujet traite la BD ?
Alors c'est l'histoire d'un homme parti pour la guerre et qui se retrouve prisonnier dans un camp allemand. Et comme dit par le présentateur, le lecteur suit durant toute l'œuvre le milieu de vie et les différentes stratégies qu'ils vont mettre en place pour s'enfuir.
Merci Sacha pour ce résumé de la BD. Mais la BD est plutôt fictive ou documentaire ?
Alors, la BD mêlant fiction et documentaire. C'est basé sur de vraies tentatives d'évasion avec des lieux, des dates et des faits réels, notamment avec la véritable histoire de Jack le Boy qui est inspirée du père de l'écrivain. Mais beaucoup de scènes sont reconstruites, les dialogues, certaines situations et même certains personnages sont en partie inventés pour raconter l'histoire de façon vivante. Donc, ce n'est pas un documentaire pur, ni une fiction totale. C'est un récit qui combine les deux.
Intéressant. Pouvez-vous me dire maintenant les caractéristiques spécifiques à cette BD ?
Alors oui, il y en a pas mal, notamment le fait que c'est un style de dessin très simple qui ressemble un peu à celui de Tintin, mais il y a également des jeux d'ombre qui rendent les scènes plus prenantes. Je pense également au découpage dans la BD. Les cases sont très serrées, ce qui donne une image rude et stricte, un peu comme l'ambiance dans les camps de prisonniers justement. Et malgré le très simple de l'auteur, il y a beaucoup de détails dans les planches, comme les émotions des personnages, ce qui rend, comme l'a dit Nolan, la scène vraiment vivante.
C'est vrai que le style simpliste ne veut pas dire moche ou sans intérêt. Merci beaucoup en tout cas, Sacha. Vous parliez des émotions. Pouvez-vous me citer un moment clé dans la BD que vous avez vraiment marqué ?
La page 124, oui. Cette page ressemble à la couverture. C'est un passage clé de l'histoire. Le boy se retrouve sous un drap, il est sur le point de s'enfuir définitivement. Cette page est sombre, elle se passe de nuit, mais cela exprime le sentiment de tension qui se passe et la fin prochaine. Bien que nous ne savons pas si elle sera en faveur ou contre le boy, ce dernier passe quelques secondes de dos et malgré cela, nous comprenons son inquiétude. Toutefois, son visage est déterminé, nous pouvons voir des soldats passant à quelques mètres de lui. Cette page agit comme un semi-dénouement, car les révélations ne s'arrêtent pas là, mais le plan qu'ils n'ont échafaudé pendant de longs mois a enfin payé.
Encore une fois, ce n'est pas le style de dessin qui fait la beauté de l'œuvre. Cette scène a l'air de saisir le lecteur, mais qu'est-ce que vous avez le plus apprécié chacun dans la BD ?
Alors pour ma part, on s'attache aux personnages et à leur situation, et c'est ce côté vraiment humain et très touchant que j'apprécie. Parce qu'en fait, on ne sait pas s'ils vont réussir ou s'ils vont se faire cafeter, comme ils disent, et exécuter. Cela dit, j'ai pas assez de recul pour savoir ce qui est romantisé ou non, mais la BD reste très agréable à lire et surtout très instructive.
Alors moi, justement, je trouve que cette BD est très intéressante, comparée à toutes les œuvres qu'on a pu voir avec les camps de prisonniers de l'époque. Pourquoi ? Car on entre un peu plus en profondeur sur ce que vivent les soldats à l'époque et leur mentalité également.
Effectivement, je vois très bien l'image. Un bon scénario change évidemment tout. J'ai une dernière question pour vous avant qu'on termine cette interview. Pouvez-vous me parler du lien entre le programme d'AGGSP et la BD ?
Ah oui, bien sûr. Alors forcément, la Seconde Guerre mondiale et ses camps de concentration et de prisonniers. Et également un sujet un peu plus poussé sur la politique de l'entre-deux-guerres avec Léon Blum, puis principalement la politique de Vichy et sa France entre guillemets « idéale ».
En effet, vous m'avez convaincu de lire cette BD. Mais avant de finir, j'ai une dernière question. Votre BD s'inscrit au concours Géopolybule, mais pouvez-vous nous dire ce que c'est ?
Évidemment. Le prix Géopolybule est un concours de lycéens concernant une douzaine de BD en lien avec l'histoire ou la politique de France, de l'Europe ou ailleurs. Les Évasions perdues, la BD qu'on est en train de vous décrire, s'inscrivent donc dans cette liste.
C'est une super idée. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et mes chers spectateurs de Delta FM, on se retrouve pour une prochaine émission d'Évasion de pensée.
Bonjour à tous, vous êtes sur Delta FM dans l'émission Géopolybule. Commençons de suite avec cette question. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment fonctionne la Maison Blanche, l'envers du décor ? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler avec Karim Lebourg et Jérôme Cartillier, auteurs de Maison Blanche. Je vous laisse vous présenter.
Bonjour et merci de nous avoir invités. Je suis Jérôme Cartillier et j'ai été journaliste à la Maison Blanche. J'ai donc décidé, moi et Karim Lebourg, grâce à notre expérience, d'écrire une BD sur le fonctionnement de la vie des présidents à la Maison Blanche.
Et donc bonjour, je suis Karim Lebourg. Et quant à moi, j'ai passé 7 ans à Washington en tant que journaliste à l'agence France Presse, puis correspondant à New York, et donc effectivement auteur de la BD Maison Blanche.
Et pour compléter ce trio, je vous présente Aude Masso. Elle est scénariste de cette BD. Elle a accompagné les deux journalistes pour les aider à mettre en scène leur projet de BD. Elle n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui, mais elle nous écoute très probablement. Alors pour commencer, je vous propose de faire un petit jeu. Vous allez essayer de résumer votre BD en 3 mots. Allez-y, Karim.
Eh bien, je dirais humoristique, caricatural et original.
Et moi, je dirais apprentissage, politique... et peut-être journalisme.
Et est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé ?
Alors, cette BD raconte l'histoire d'un journaliste qui découvre les endroits emblématiques de la Maison Blanche et comment fonctionne la presse avec un peu d'humour et de caricature, mais également comment se présente le déplacement d'un président, notamment le passage où il nous montre le déplacement routier vers la Maison Bleue de la Corée du Sud. Il nous explique qu'il y a une trentaine de véhicules équipés de vitres blindées, mais également le fait qu'on ne sait jamais dans quelle voiture le président se trouve pour le protéger en cas d'attaque. mais il y a également plein d'autres éléments qui nous montrent comment fonctionne la Maison Blanche et la presse.
Quel était votre objectif avec cette BD ?
L'objectif était d'abord de montrer l'envers du décor de la Maison Blanche, qui est un monument très important du monde politique actuel, notamment en ce moment. Cependant, il fallait garder une touche d'humour et de familiarité pour que cela puisse toucher le grand public.
Et je peux vous dire que ça a fonctionné. Je ne suis pas vraiment familier avec la politique, et pourtant je peux vous dire que j'ai vraiment adoré. Surtout la partie où on parle de l'avion présidentiel de la Maison Blanche, le Air Force One.
Et effectivement, la BD, je la trouve très réussie. Elle s'adapte à tout le public avec un vocabulaire accessible. Elle reste aussi très d'actualité avec l'inclusion de certaines références. Elle témoigne aussi de la situation politique des États-Unis à l'heure actuelle, de façon assez simpliste, donc d'avoir une compréhension générale.
Je trouve aussi que cette BD, elle nous montre vraiment l'envers du décor de la Maison Blanche, car elle nous montre toutes les pièces une par une, ainsi que la fonction de chaque personne, comme par exemple la salle des discours pour annoncer quelque chose au monde ou aux personnes qui travaillent à la Maison Blanche. Mais ce qui est vachement bien, c'est que... C'est le fait qu'il nous montre également ce à quoi les présidents américains ont le droit, comme par exemple, comme vous l'avez notifié, l'avion Air Force One, qui nous montre à quel point il est équipé.
Et voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à retrouver leur BD Maison Blanche aux éditions Delcourt dans vos librairies. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la Minute Lecture et aujourd'hui, on va parler du prix Géopolybule. C'est un événement qui vise à sensibiliser les lycéens aux enjeux politiques et historiques contemporains à travers la bande dessinée. Aujourd'hui, nous avons Héloïse à un côté.
Bonjour.
Donc, une élève du LP2I.
Voilà.
Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la BD L'Appel des Bouts du Monde. Parlez-nous un peu de cette BD. Qui aurait écrit cette œuvre ?
Eh bien, Catherine Monod-Béranger en est la scénariste, alors que Paolo Castaldi en est le dessinateur.
Effectivement, Catherine Monod-Béranger qui a également réalisé deux autres publications, Gabriella Rome de France, édition Le Vent se lève, Petite fille d'aujourd'hui, l'apprentissage de la féminité aux éditions Autrement. Tandis que Paolo Castaldi a également réalisé de nombreuses autres œuvres, comme par exemple Anomalie, publiée par Star Comics. Mais donc, de quoi parle cette BD ?
Alors, c'est l'histoire de Joël, une infirmière avec une carrière dans l'humanitaire pendant 40 ans, qui nous raconte ici toutes ses missions, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Le Congo en 2019, Djibouti en 1979, le Kurdistan irznien en 1982 et 1983, l'Afghanistan et le Pakistan de 1989 à 1991, Haïti en 1993 et le Burundi de 1995 à 1998. Tout au long de son parcours, elle fait partie de nombreuses associations comme Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge, l'AMI, dont elle était la chef. Elle a aussi travaillé à une période pour l'ONU.
Effectivement, nous avons un témoignage d'une vraie héroïne de l'humanitaire, du jamais vu jusqu'ici. De ce que je sais, ce n'est pas la première œuvre de Catherine Monod-Béranger qui s'inspire d'un témoignage. Par quel biais réussit-elle à obtenir tout ça ?
Alors, son mari est un ancien humanitaire, et c'est par ce biais qu'a fait la recrute de Joël pour recueillir son témoignage. Elle a également recueilli un autre témoignage durant sa carrière d'une habitante du bidonville. Elle est aussi titulaire d'un Master 2 de Sciences Po en relations internationales spécialisée immigration.
Très bien, je comprends mieux. Merci Héloïse. Mais donc nous assistons tout le long de l'appel des bouts du monde à des scènes et des paysages tous plus durs les uns que les autres, comme Joël est appelé dans des pays en guerre souvent. Comment nous décririez-vous en fait l'ambiance de cette BD ?
Je pense que nous avons une ambiance intense sur le film et émouvante pour les lecteurs. Cela reste un sujet sensible et une BD assez dure à lire, car il s'agit essentiellement d'un documentaire, donc une histoire vraie et touchante.
Très bien, effectivement. Pour compléter cette explication, nous avons notre tradition dans notre émission de décrire en 5 mots la BD. Quels seront les vôtres, Héloïse ?
Alors, je trouve que cette BD est impressionnante, mm-hmm. impactante, très touchante par l'histoire de Joël.
Effectivement.
Intéressante, évidemment, c'est toujours intéressant
c'est sûr.
De voir ces histoires. Et évidemment, fantastique.
Mm-hmm. Parfait. Merci beaucoup. Très bien, maintenant, nous allons plutôt passer à l'esthétique de la BD. Quelles sont les caractéristiques de la BD ? Comment décrirez-vous le travail de Paolo Castaldi ?
Alors, on peut voir que le travail de Paolo Castaldi peut être comme une aquarelle. C'est très marquant comme style de dessin. c'est juste magnifique et très, très bien pour, pour ce style de BD.
Très bien. Une dernière question sur notre BD du jour. Et Louise, très importante pour tous nos auditeurs, quel serait votre avis personnel sur la BD ?
Alors pour mon avis, j'ai aimé la BD. Je trouve que le témoignage d'un humaniste comme Joël est vraiment intéressant, mais aussi très intense comme métier. Cela nous permet de découvrir le vrai métier d'humanitaire de guerre. La BD était assez dure à lire selon moi, avec des scènes et des contextes assez durs, comme les guerres civiles, l'hospitalisation. Mais je pense que cela reste important de découvrir ce métier très touchant et très important, et de le diffuser à tous.
Très bien. Merci beaucoup pour ces points de vue et pour votre participation.
Merci à vous aussi.
C'est un plaisir de parler avec vous pour la Minute BD. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte auprès d'un nouvel élève du LP2I. À très bientôt.
Aujourd'hui, sur Delta FM, notre émission L'Instant Book, l'émission qui explore la BD sous toutes ses formes. Bonjour à tous et bienvenue. Alors voici le déroulé de cette émission. Nous commencerons d'abord à parler de l'auteur et de la BD qu'il a écrite, et par la suite nous interviewerons Lexira, elle nous dira son ressenti sur cette BD, en citant les caractéristiques et la manière dont l'auteur l'a écrite. Commençons, plongeons d'abord dans cette BD. L'auteur, Jean-Yves Le Naour, historien et vulgarisateur spécialiste sur le XXe siècle, auteur prolifique qui a écrit plusieurs BD, notamment Le Crétin qui a gagné la guerre froide. Il a été en partenariat avec Cédric Lebian, un illustrateur français talentueux qui dessine depuis l'enfance. Alors Lexira, peux-tu nous raconter la BD pour qu'on puisse au moins plonger dans le cœur de cette histoire ?
Absolument. Le Crétin qui a gagné la guerre froide raconte l'histoire tordante d'un agent américain avec zéro compétence. Pourtant, il se retrouve mêlé au grand moment de la guerre froide et grâce à un tas de quiproquos et de gaffes, il finit par changer le cours de l'histoire. La BD est vraiment amusante, elle exagère tout, c'est complètement absurde. Ça montre que parfois, le sort du monde ne dépend pas que de personnes, on va dire, intelligentes, mais de gens normaux, voire carrément incompétents. C'est une manière vraiment originale de voir un moment clé du XXe siècle.
Et si tu avais 5 mots pour nous décrire la BD, que pourrais-tu dire ?
Je dirais drôle, satirique, historique, absurde et surprenant.
Ok. Penses-tu que cette BD est plutôt une fiction ou un documentaire ? Si tu avais une page clé à retenir, laquelle serait-ce ?
Pour moi, cette BD est une fiction et un documentaire satirique. L'auteur raconte avec humour et ironie le contexte de l'histoire réelle avec des événements. Ce n'est pas une pure fiction, l'histoire est réelle, les éléments sont juste représentés de façon dramatique. Ça rend la lecture à la fois divertissante et instructive. Je n'ai pas spécialement le numéro de la page, mais c'est celle avec la rencontre entre Reagan et Gorbatchev lors du sommet du Reykjavik en 1986. C'est un tournant où les deux dirigeants discutent du désarmement nucléaire et chacun essaye d'imposer sa vision sur le monde. Cette scène symbolise le cœur du récit, deux systèmes opposés, deux personnalités fortes et la diplomatie transformée en un show médiatique.
Ok, et qu'as-tu ressenti en lisant cette BD ? Qu'as-tu pensé de l'ambiance de la BD en général, par exemple en fonction des images, de la couleur, de l'histoire en elle-même ?
J'ai trouvé la BD vraiment amusante, j'ai souvent souri voire ri. L'ambiance est légère, même si elle parle de choses sérieuses. Les couleurs et les dessins renforcent ce côté humoristique. C'est vivant, dynamique, un peu caricatural, ce qui colle parfaitement à l'esprit satirique de l'histoire. L'ensemble donne une BD agréable à lire, qui fait réfléchir sans être lourde.
C'est aussi ce qui fait la force de la BD, l'humour, la critique, et surtout cette idée que parfois, les grandes décisions historiques ne sont pas le résultat d'une intelligence incroyable, mais d'une série de hasards absurdes. Dis-moi, si tu avais des points forts ou des points faibles à propos de cette BD, qu'est-ce que tu dirais ?
En point fort, je dirais clairement l'humour et la manière intelligente de réviser l'histoire. J'ai aussi aimé le style de dessin qui est très expressif avec beaucoup de couleurs. Et en point faible, je dirais peut-être certaines références historiques, peut-être un petit peu difficiles à comprendre si on ne connaît pas toute la guerre froide, mais ça reste très accessible dans l'ensemble.
Et par rapport au thème que tu as étudié au lycée, ou que tu étudies encore même, est-ce qu'il y en a qui correspondent à cette BD ? Penses-tu que cette BD pourrait être adaptée en film, au cinéma ?
Oui, clairement, on retrouve des thèmes qu'on voit en histoire comme la guerre froide, les tensions entre les États-Unis et l'URSS, l'espionnage, la propagande. On retrouve aussi des thèmes littéraires comme la satire ou le rôle du héros. Et je pense que la BD pourrait vraiment être adaptée au cinéma parce qu'il y a des scènes très visuelles et presque cinématographiques. Par exemple, dans le moment où le crétin réussit, sans le vouloir, à déclencher un incident diplomatique, il dit « J'ai juste voulu aider, je ne comprenais rien à ce qu'il racontait ». Ce passage montre bien le mélange de maladresse et d'absurdité qui ferait super bien à l'écran.
Donc en résumé, Le crétin qui a gagné la guerre froide est une BD qu'on vous recommande. Si vous aimez les satires politiques extravagantes, les anti-héros catastrophiques, les histoires qui jouent avec le réel sans jamais se prendre au sérieux, et les œuvres qui vous font rire tout en vous faisant réfléchir, celle-ci est parfaite pour vous. Merci à toi Alexira de nous avoir donné du temps, de nous avoir donné ton opinion sur cette BD qui nous a aidé énormément pour mieux comprendre et en apprendre plus sur elle. Alors je te remercie Alexira pour ta participation sur l'Instant Book. Je vous remercie aussi, chers auditeurs, d'avoir suivi avec nous l'interview de Lexira dans ce podcast sur « Le crétin qui a gagné la guerre froide » de Jean-Yves Lenoir. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur Delta FM dans notre émission « L'Instant Book ».
Bonjour et bienvenue sur Delta FM. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une lycéenne du LP2I qui a lu le livre suivant et dont on va vous parler. Elle s'appelle Léa. On va donc parler de la BD Pyongyang Parano dans le cadre du concours Géopolybule. Elle a été écrite par Antoine Dreyfus et Emmanuel Delaconté et les dessins ont été réalisés par Fanny Briand. Ce livre a été publié en 2014. C'est une BD documentaire et autobiographique qui s'apparente également à la fiction puisque deux journalistes ont décidé de s'infiltrer en voyage. Alors, Pyongyang Parano nous raconte quoi ?
La bande dessinée Pyongyang Parano plonge dans la vie en Corée du Nord. Elle montre la surveillance, la peur et la pression quotidienne. Dans cette BD, on suit un personnage qui vit dans un système fermé et oppressant.
Maintenant, Léa, pourrais-tu nous résumer le début de la BD ?
La BD est inspirée d'une histoire vraie de l'auteur. L'habitant principal de Pyongyang est Alex. Il vit normalement, quelque chose cloche. Il remarque des regards, des gestes étranges, des silences lourds. Alex et Maryse, sa collègue, sont en voyage d'affaires en infiltration en Corée du Nord et se font passer pour de faux négociants en chocolat. Petit à petit, la paranoïa s'installe, trouble mental qui entraîne un délire et des réactions d'agressivité. On sent que la réalité et la peur se mélangent.
Maintenant, quelles sont les intentions de l'auteur et quelles sont ses visions de ce sujet ?
L'auteur souhaite montrer au lecteur qu'il peut y avoir des côtés positifs à se trouver en Corée du Nord, malgré les difficultés rencontrées par les personnages se trouvant dans ce pays.
Pourrais-tu nous décrire en 5 mots la BD, s'il te plaît ?
La BD est instructrice, humoristique, romancée, infiltrée et curieuse.
Ok, quelles sont les légitimités de l'auteur ?
Antoine Dreyfus est l'auteur de la BD Pyongyang Parano, mais aussi de La France qui gronde dans le même genre. L'œuvre souligne les dessous d'un pays en difficulté, ainsi que le domaine politique du pays évoqué. Il est adepte du sujet et il souhaite montrer une vision du monde particulière, malgré les problèmes rencontrés. Il est légitime car il a lui-même vécu ce voyage en Corée.
Pour continuer, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis personnel ?
Cette BD m'a permis de comprendre le contexte très tendu du pays évoqué. Elle est très instructive et avec une touche d'humour, permettant au lecteur de ressentir moins d'oppression en la lisant, tout en conservant l'importance du sujet. Il a été particulièrement aimé par le groupe.
Pour poursuivre, quelles sont ses caractéristiques ?
Le lecteur ressent du suspense. Le style de cette BD est épuré, ce qui renforce l'ambiance froide du pays.
Et pour finir, quels sont les liens entre AGGSP et cette BD ? Pourquoi fait-elle partie de ce concours ?
Les liens entre la BD et l'AGGSP sont la propagande, la désinformation, ainsi que l'autorité. Cette BD permet l'immersion dans une réalité géopolitique complexe. C'est pour cela qu'elle est nommée dans le concours.
Ok, merci à Léa d'avoir répondu à mes questions. Merci à Justine de pouvoir nous permettre de nous enregistrer. Au revoir.
Merci à Alexandra, notre journaliste, pour mon interview. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois pour un nouveau sujet. Au revoir.
«
Bienvenue sur Delta FM dans notre émission La Minute Lecture. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bande dessinée qui s'appelle Sur le front de la Corée, qui a été publiée en 2024 dans le cadre du prix Géopolybule. Elle est disponible en librairie et en bibliothèque pour le prix de 21 euros. Aujourd'hui, nous accueillons deux élèves du LP2I, Meili et Achille.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Pourriez-vous d'abord nous parler, nous présenter avec vos mots la BD ?
Pour moi, la BD raconte vraiment ce qui se passe en Corée pendant la guerre, avec le point de vue des civils, le combat. Et c'est surtout sur le point de vue du journaliste qui est lui-même là-bas, et c'est écrit par Henri de Turenne.
Il raconte aussi la dureté de la guerre et l'importance de témoigner pour l'histoire. Les personnages principaux sont Turenne lui-même et les soldats qu'il rencontre.
Très bien. Maintenant, parlez-nous un peu du personnage principal. Quel est exactement son rôle dans l'histoire et selon vous, qu'est-ce qu'il transmet ?
Moi, je trouve que c'est un témoin engagé qui retrace uniquement la réalité là-bas. Et ça montre vraiment qu'il ne faut pas oublier l'histoire et qu'il faut vraiment la partager par le biais, par exemple, des BD ou des ouvrages.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'auteur et en quoi, selon vous, il est légitime de raconter cette histoire ?
Alors, l'auteur, du coup, c'est Henri de Turenne. Il est né en 1921 et il est mort en 2016. C'est un journaliste et aussi un spécialiste de la guerre en Corée. Il est célèbre pour ses reportages à l'international. Il a aussi écrit de nombreux documentaires et a reçu le prestigieux prix Nobel Albert Londres.
Moi, je pense qu'il est légitime car il était présent sur les lieux, donc sur le terrain. Ce qu'il raconte, c'est vraiment réel et avec des témoignages. Et je crois qu'il a même interviewé des militaires. Ça rend vraiment l'histoire beaucoup plus réaliste et compréhensible.
Et maintenant, qu'est-ce que vous avez pensé de la lecture ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Pour ma part, j'ai aimé. Mais par contre, j'ai trouvé que certaines scènes s'étirent lentement ou soient trop descriptives. Ça pèse un peu sur la lecture et sur le rythme de l'action. Cela m'a permis de mieux comprendre le conflit et surtout le point de vue interne avec les personnages présents sur le lieu.
Moi, j'ai adoré l'histoire. Elle est réaliste et vraiment historique. Ça rend le récit compréhensible et ça m'a surtout permis de m'intéresser au métier de journaliste.
Si vous deviez donner 5 mots pour décrire cette BD, ce seraient lesquels ?
Donc moi, mes 5 mots, je pense que je dirais intense, réel, violent, engagé et je pense aussi témoin.
Pour moi, ça serait surtout humain, dur, historique, sombre et marquant.
Et par rapport aux illustrations, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Moi, j'ai trouvé que les cases elles étaient assez réalistes. Donc du coup, c'est dessiné par Raphaël Ortiz. Elles sont précises, sobres et les couleurs, je trouve qu'elles rendent l'histoire vraiment réaliste.
J'ai moi aussi beaucoup aimé les couleurs qui restent plutôt ternes, avec des tons gris, bruns et bleus. Pour moi, ça renforce l'atmosphère dramatique du front. Pour ce qui concerne le lettrage, éclair et classique, facile à lire.
Et dernière question, si vous aviez une question à poser à l'auteur, ce serait laquelle ?
Moi, je pense que je choisirais de poser la question « Qu'est-ce qui vous a marqué personnellement quand vous avez recueilli les témoignages là-bas ? »
Moi, je demanderais plutôt pourquoi l'auteur a choisi de raconter cette période sous forme de bande dessinée plutôt qu'un autre format.
Très bien, eh bien merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos impressions sur la BD. Donc pour conclure, on peut dire que non seulement elle retrace la réalité d'un conflit souvent oublié, mais aussi elle montre l'importance du travail des journalistes sur le terrain. Merci Meili, merci Achille et merci à vous chers auditeurs. C'était La Minute Lecture sur Delta FM. À très bientôt pour une nouvelle découverte.
Bienvenue à tous sur Géopolybule. Et aujourd'hui, nous accueillons deux lecteurs pour parler de la BD Tsar Bomba, scénarisée par Fabien Grolot et dessinée par Thierry Chavant. Distingué au prix BD historique 2025, l'album raconte la mise au point de la bombe nucléaire soviétique en 1961. Dans le contexte tendu de la guerre froide, en montrant, Khrouchtchev obsédé par la puissance et des scientifiques partagés entre devoir et conscience. Les auteurs, légitimes par leur expérience documentaire et graphique, livrent une vision critique de cette folie des grandeurs résumée en 5 mots « puissance, peur, histoire, science et dilemme ». On enchaîne tout de suite avec l'interview de nos deux lecteurs venus nous livrer leur avis sur la BD. Bonjour à vous.
Bonjour.
Tout d'abord Isidore, comment la BD vous a-t-elle fait ressentir la puissance et le danger de l'arme nucléaire ?
Tout au long de la BD, André Sakharov fait des rêves un peu impressionnants qui peuvent être retranscrits comme une métaphore des dangers de la Tsar Bomba. Les dessins, à travers leur minimalisme, font aussi ressortir la froideur de l'URSS, ce qui donne un aspect un peu terrifiant au livre, car ils représentent les dirigeants de l'URSS très froids. Et en fait, on se demande souvent, mais que vont-ils faire d'une arme aussi puissante ?
Et vous Margot, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la BD ? C'est le dessin, l'histoire, les personnages ou bien le sujet qui est traité ?
Dans cette BD, c'est surtout la qualité du dessin qui m'a marqué. C'est un dessin très minimaliste, mais à contrario, il y a une écriture très dense qui contient énormément de détails techniques et historiques. L'écriture du livre, elle sonne comme un documentaire et les dessins, eux, ressemblent plus à des dessins publicitaires avec des traits très épais et assez peu de détails. Je trouve que ça crée un vrai contraste entre le dessin et l'image.
Très bien, merci. Selon vous, Isidore, la BD cherche-t-elle surtout à raconter un fait historique ou plutôt à passer un message sur le monde actuel et pourquoi ?
Je pense que la bande dessinée, elle sert à faire passer un message en racontant des faits historiques. Je m'explique. La bande dessinée nous raconte comment Andrei Sakharov a réalisé les enjeux qu'implique sa création et comment l'URSS a tenté de le réduire au silence, car en fait, il a voulu révéler et dénoncer les pratiques de l'URSS. Cette bande dessinée, elle tente de nous faire réfléchir sur la liberté d'expression à travers des faits historiques, et c'est comme cela que l'auteur et le dessinateur nous poussent à la réflexion.
Très bien. Et enfin, je reviens vers vous, Margot. En refermant de sa bomba, en quoi cette BD vous a fait réfléchir sur le rapport entre progrès scientifique et danger ?
Ce qui frappe surtout, c'est la manière dont la BD montre que le progrès scientifique n'est jamais neutre. La Tsar-Bomba est représentée à la fois comme un exploit technologique et comme une démonstration absurde de puissance. En tant que lecteur, on comprend que la science avance souvent plus vite que la réflexion et sans cadre politique et morale clair, le progrès peut rapidement devenir une menace plutôt qu'une promesse.
Donc si j'ai bien compris, Tsar-Bomba utilise la bande dessinée pour montrer l'ambiguïté du progrès scientifique. À travers un dessin minimaliste, une écriture dense et le parcours d'Andrei Sakharov, elle révèle la puissance destructrice de l'arme nucléaire et les dérives politiques et morales qui l'accompagnent. Au-delà du récit historique, la BD invite au lecteur à réfléchir aux responsabilités humaines et à la liberté d'expression. En tout cas, merci à nos lecteurs d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et merci à vous, chers auditeurs, et à bientôt pour de nouvelles BD à découvrir.